Bon réveil, il est 6h.
Et on commence avec le kidnapping de la petite Mia dans les Vosges. La petite fille de 8 ans n'a pas encore été retrouvée. L'alerte enlèvement a été levée dans la nuit. On fait le point au début de ce journal. La campagne de vaccination en entreprise peine à démarrer. En cause, l'organisation de la médecine du travail. C'est une information Europe 1. Plusieurs plaintes ont été déposées après de graves effets secondaires suite à l'injection du vaccin AstraZeneca. Un sondage IFOP donne le Rassemblement National en tête en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les élections régionales. Et puis des soirées poker et massage en plein cœur de Paris. Un tripot clandestin de luxe vient d'être démantelé dans les beaux quartiers.
À suivre la page des sports et le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et puis mon invité inattendu est un politique ce matin qui vient partager avec nous sa passion pour le surf. Le surf, nouvelle discipline olympique, les JO dans pile 100 jours à Tokyo.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les recherches se poursuivent pour retrouver la petite Mia. Le dispositif alerte enlèvement déclenché hier soir a été levé dans la nuit. Mais pour l'instant, toujours pas de traces de la petite fille. L'enquête continue. À ce stade, Johanna Chabas, que sait-on des circonstances de ce kidnapping ?
Eh bien, la petite fille de 8 ans était chez sa grand-mère maternelle dans le village des Poulières, dans les Vosges, lorsqu'en fin de matinée, vers 11h30, trois hommes l'ont enlevée. Les trois kidnappeurs, âgés de 25 à 50 ans, pourraient circuler à bord d'un véhicule Volkswagen transporteur gris. Mia a été placée chez sa grand-mère après une décision du juge des enfants. Sa mère, Lola, n'a pas le droit de la voir seule. Et justement, les gendarmes pensent que la petite Mia pourrait être avec sa maman, qui conduirait une autre voiture, une Peugeot 207 noire. Pour l'instant, la piste privilégiée par les enquêteurs est que la mère de Mia pourrait avoir organisé l'enlèvement.
Les précisions de Johanna Chabas.
Le vaccin AstraZeneca a-t-il causé la mort d'au moins 9 personnes en France ? C'est ce que des autopsies et des analyses doivent déterminer.
Oui, c'est une information Europe 1. Plusieurs plaintes ont été regroupées par un avocat après des effets secondaires suite à l'injection du vaccin. Après la mort le mois dernier d'un jeune homme de 24 ans, quelques jours après avoir reçu le sérum, maître Étienne Boitin a été saisi par 8 autres familles pour éclaircir les circonstances d'autant de décès.
Parmi les personnes qui sont décédées, aucune ne présentait un quelconque antécédent médical en relation avec la survenance d'une thrombose qui leur a été fatale. Les plaintes qui ont été déposées l'ont été sur le fondement de l'homicide involontaire. Cette qualification pourrait être amenée à évoluer. Concernant des personnes qui ne sont pas décédées, mais qui disent avoir déploré des conséquences graves suite à l'injection d'AstraZeneca, nous avons une quinzaine de dossiers. Ce sont essentiellement des atteintes de nature vasculaire ou de nature neurologique. J'ai été saisi par deux personnes qui m'ont indiqué avoir déploré des complications graves liées à l'injection du vaccin Pfizer. Ce ne sont pas des personnes qui sont décédées. On a un AVC et on a des tremblements qui pour l'instant ne s'expliquent pas.
Maître Étienne Boitin, avocat à Saint-Nazaire, joint pour Europe 1 par Charles Guyard. Et puis, il y a désormais un autre vaccin dans la tourmente, celui de Johnson & Johnson, qui provoquerait lui aussi de carrares de graves caillots sanguins. Les États-Unis ont préféré mettre en pause son utilisation pour l'instant. Après cela, Johnson & Johnson a annoncé retarder le déploiement de son vaccin en Europe.
La vaccination en entreprise, à présent, depuis un peu plus de 2 semaines, il n'est plus nécessaire d'avoir un médecin du travail pour vacciner ses salariés. Un infirmier suffit.
Oui, c'est un soulagement pour beaucoup de sociétés qui se heurtaient jusque-là aux lenteurs de la médecine du travail. Maud Descamps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les campagnes de vaccination via la médecine du travail, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Alors, écoutez bien ce chiffre. Seulement 10 500 personnes se sont fait vacciner par la médecine du travail sur 11 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose. Ce sont les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé. Donc, clairement, ça ne marche pas parce que le processus est lourd, difficile d'obtenir un rendez-vous. Et puis surtout, les doses ne sont pas suffisantes. C'est ce qu'a constaté Noah, DRH, dans une entreprise de pétrochimie.
La première phase a été d'orienter nos collaborateurs vers les médecines du travail. Sauf qu'on voit que les médecines du travail ont vraiment du mal à se procurer des vaccins et du coup à pouvoir vacciner un maximum de salariés en général.
Cette DRH a donc contacté un réseau d'infirmiers libéraux pour mettre en place une campagne de vaccination pour ses salariés. Les doses devraient être disponibles d'ici 3 semaines.
Et les entreprises qui ont recours à des infirmiers sont nombreuses.
Oui, et elles veulent que ça aille vite. Florence Herry, une infirmière qui organise des campagnes de vaccination en entreprise, croule sous les demandes.
De nombreuses entreprises nous ont resollicité pour appuyer sur le bouton et mettre en place des campagnes de vaccination. Être vaccinée aujourd'hui permet d'envisager un retour au travail à la normale dans beaucoup d'entreprises, éviter du coup l'absentéisme et surtout assurer une sécurité sanitaire dans les locaux et dans les lieux de travail.
Avec la reprise économique aux États-Unis, les entreprises du CAC 40 sont sur les rangs. Le groupe Total, par exemple, qui a déjà ouvert 6 centres de vaccination, prévoit d'élargir le dispositif à des plus petits sites. Le but recherché par tous ici, faire revenir les salariés sur site dès la rentrée en septembre prochain.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La France suspend ses liaisons aériennes avec le Brésil en raison de l'inquiétude autour du variant brésilien plus dangereux. Air France a d'ores et déjà annoncé l'annulation de ses vols vers et en provenance du Brésil prévus aujourd'hui. Emmanuel Macron présidera demain une réunion avec la plupart de ses ministres pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés. Dans sa dernière allocution du 31 mars, le chef de l'État avait annoncé la réouverture avec des règles strictes, des terrasses de bars et restaurants à partir de la mi-mai.
En attendant, les restrictions restent les mêmes, interdiction de se rassembler, sauf, on va le voir dans certains cas, pour les étudiants.
Oui, ceux qui passent des concours, c'est la période en ce moment, normal, sup, polytechnique, les mines, obligation d'être présent à l'examen, et ce n'est pas toujours évident. Virginie Riva.
Le règlement est clair, même positif au Covid, les élèves de BTS qui ne se présentent pas à leur épreuve ont un zéro, non éliminatoire mais quasiment irrattrapable. Ridouane est en BTS à La Rochelle, il demande avec son collectif le passage en contrôle continu.
On est en confinement là en ce moment, mais on va nous dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller aux examens, vous allez être 1000 dans des lycées, dans des hangars.
Mais vous, si vous êtes positif, est-ce que vous irez quand même à votre examen ?
Ah bah personnellement, j'y vais. Je suis obligé, j'ai passé 2 années à travailler, à bosser mon BTS.
Les étudiants du Gobillard, professeurs en classe prépa, eux sont moins inquiets. Mais même s'ils sont malades, ils se présenteront également à leur concours d'école de commerce. Ils en ont même parlé ensemble.
Les étudiants aujourd'hui ne savent pas s'ils pourront repasser le concours si jamais ils sont malades là, au mois d'avril, ou s'ils seront condamnés à le repasser un an après. C'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils se présentent quand même s'ils sont malades.
À l'entrée des salles, pas de prise de température ni de test PCR. Dans certains centres d'examen, une salle Covid a été prévue pour ceux qui se sentiraient mal ou auraient des symptômes durant les épreuves.
Virginie Riva. Et puis l'épidémie va coûter 424 milliards d'euros sur 3 ans à la France, selon le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Une somme qui comprend notamment les aides dédiées aux mesures d'urgence, comme le fonds de solidarité et le chômage partiel.
Il est 6h08 sur Europe 1. Les élections régionales et départementales auront finalement lieu les 20 et 27 juin prochains. En région PACA, la liste Rassemblement National de Thierry Mariani est donnée en tête avec 31% des intentions de vote contre 26% données à la liste LR.
Et c'est ce que révèle un sondage Europe 1 La Tribune réalisé par l'IFOP et publié aujourd'hui sur les intentions de vote dans la région. À Cannes, notre correspondant dans le Sud-Est, Frédéric Michel, a demandé leur avis aux habitants.
Pour les électeurs de droite, afficher une préférence pour le Rassemblement National n'est donc plus tabou. Mais ce qui a convaincu cette cannoise, c'est Thierry Mariani.
Je ne pourrais pas vous parler du parti, je parle de l'homme, lui personnellement. Les idées, c'est autre chose, Marine Le Pen, c'est autre chose.
Et même les positions du Rassemblement National ne semblent plus être un obstacle pour les électeurs de droite.
Pour moi, personnellement, ils ont des idées qui se défendent, le Front National, hein, puisqu'ils se sentent moins radicalisés. Mais après, il faut savoir gratter le vernis quand on va voter, quoi. On a souvent eu des surprises dans les urnes. Les gens, quand ils sont tout seuls, ils réfléchissent.
Si le vote reste incertain, l'image du Rassemblement National a changé. Marie et François, un couple de jeunes retraités cannois.
C'est la personnalité des gens. Moi, le parti, pas parti, je m'en fous. Nous, on votera plus Muselier, oui. Mais après, je n'ai pas de blocage systématique.
Il y a un ras-le-bol. Ouais,
il y a un tel ras-le-bol que, de toute façon, c'est sûr que les gens voudront trouver un changement.
Que rien n'a été fait dans le bon sens et que ça va pas.
Déçue par sa famille politique, Nathalie a, elle, décidé de ne pas voter.
Nous, on était LR à la base, hein, mais maintenant, bah, moi, le LR qui prend la suite vers tous ces gens-là qui sont quand même très à droite, qui tiennent des propos quand même très lepéniste. Ben non.
Et ces élections régionales auront lieu les 2 derniers week-ends du mois de juin.
On va détailler les enseignements et les résultats de ce sondage Europe 1 avec le directeur adjoint de l'IFOP qui a réalisé cette enquête. Frédéric Dabi est mon invité à 6h40.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentera tout à l'heure en Conseil des ministres son projet de loi visant à restaurer la confiance dans la justice. Parmi les mesures phares, les procès filmés, l'encadrement des enquêtes préliminaires ou encore la généralisation des cours criminels.
Un tripot clandestin vient d'être démantelé en plein cœur de Paris.
À l'intérieur, poker, restauration et massage, alors que tous les établissements recevant du public, on le sait, sont fermés. 6 organisateurs présumés ont été mis en examen, Guillaume Bier.
Oui, ils ont vu grand, trop grand sans doute, ce père de famille, ses 2 fils et leurs associés qui géraient jusqu'ici un tripot clandestin en banlieue parisienne. Affaire florissante, à tel point qu'ils ont tout déménagé le mois dernier, direction Paris, la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe. Les suspects ont réussi à louer un appartement de 250 mètres carrés réparti sur 4 étages. À l'intérieur, ils proposaient à leurs habitués des tables de poker, vente de cigarettes, de quoi se restaurer aussi, et avec pour le confort des joueurs lors des longues parties, des serveuses masseuses. Rien que cela. Ce que les gérants ignoraient, c'est qu'à la direction centrale de la police judiciaire, le service des courses et jeux enquêtait sur eux depuis 6 mois déjà. Les policiers ont débarqué en pleine nuit et interrompu les parties en cours. Une amende à venir pour les joueurs et une garde à vue pour les 6 organisateurs présumés, dont l'un était armé. Ils ont tous été mis en examen.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Et puis la pollution aux particules fines tue au moins 40 000 personnes par an selon les nouvelles estimations de Santé publique France. La tendance est à la baisse. Par ailleurs, le premier confinement du printemps dernier a permis d'éviter 3 500 décès grâce notamment à la réduction du trafic routier.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h11.